Vous écoutez France Culture, il est 6h45. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Au sommaire aujourd'hui des enjeux internationaux, Trump et les prochaines présidentielles.
C'est ça, c'est annoncé par une source de la Maison-Blanche depuis lundi. Donald Trump lancera sa campagne officiellement pour la présidentielle autour du 15 juin, presque 4 ans, jour pour jour, après sa précédente candidature. Et alors que les candidats démocrates, eux, se ruent pour l'investiture aux primaires, lui vise 2020 déjà, et promet de ne pas laisser ses électeurs, je cite, s'endormir. Il garde toujours ses 43% d'opinion favorable. Est-il infaillible? On voit ça avec vous, Laurence Nardon, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être au téléphone ce matin. Vous êtes responsable du programme États-Unis de l'IFRI, Institut français des relations internationales, et auteur des États-Unis de Donald Trump en 100 questions chez Talendier l'année dernière. Alors juste une remarque sur cette annonce donc non officielle de la Maison-Blanche, faite après une visite de Trump en Pennsylvanie, où Joe Biden tenait son premier meeting aussi ce week-end. On peut dire que donc la campagne est officiellement lancée, celle pour 2020.
Oui, oui, elle a clairement démarré depuis un bon moment avec plus de 22, 23 candidats du côté démocrate où il n'y a pas de candidat naturel. Et puis de l'autre côté, côté républicain, un candidat évident qui est Donald Trump qui n'aura probablement pas de challenger dans des primaires républicaines.
Oui, c'est ça, puisqu'il a 91%, je crois, pour l'instant, d'opinion favorable parmi les républicains pour ce qui est de la primaire. Juste encore une remarque sur la forme. Donc, il était en Pennsylvanie, là où était aussi Joe Biden. Joe Biden qui a été très attaqué par Donald Trump ces dernières semaines. Est-ce que c'est lui qui fait réagir Donald Trump et qui l'inquiète en quelque sorte?
Sans doute, puisque Biden mène le jeu côté démocrate pour l'instant, puisque c'est celui qui a le plus d'intentions de vote côté démocrate. Ça, c'est la première raison. Et la seconde, c'est que Biden joue sur le même terrain que Trump. C'est-à-dire que lui, enfin, parmi les autres candidats démocrates, lui, il a clairement choisi d'essayer de reconquérir l'électorat des classes moyennes blanches, peu diplômées, des États du nord-ouest du pays, dont la Pennsylvanie, mais aussi la Rust Belt, qui sont les États dans lesquels l'électorat populiste a voté Trump. Et donc, Biden cherche à les récupérer, en quelque sorte.
Oui, alors ce Joe Biden, faut peut-être le resituer pour nos auditeurs. C'est l'ancien vice-président de Barack Obama 2009-2017. C'est quand même sa troisième candidature à la primaire. Vous avez dit qu'il avait une bonne cote d'opinion, je crois que c'est 38% à peu près. Est-ce que c'est vraiment le candidat idéal pour les démocrates?
Eh bien, forcément, parce que à la fois, il est donc très connu et il a une image assez sympathique, mais en même temps, je crois que sa candidature est un peu fragile, parce que quand on va rentrer dans le vif du sujet, il va être rattrapé par tout un tas de commentaires maladroits qu'il a pu faire dans sa carrière. Il est connu pour faire beaucoup de gaffes, et du coup, je pense que sa candidature pourrait facilement s'écrouler. Une autre raison de sa fragilité, c'est qu'il doit fatalement défendre le bilan de Barack Obama, notamment en économie, et ce fameux électorat des classes moyennes qu'il cherche à récupérer a en réalité plutôt bénéficié des années qui viennent de s'écouler avec Trump, des 2-3 ans qui viennent de s'écouler avec Trump. On voit notamment que l'économie va très bien et que, alors là c'est la divine surprise de Trump ces derniers mois, les bas salaires commencent enfin à remonter aux États-Unis et donc ce sont ces classes moyennes qui en bénéficient. Et donc je ne suis pas sûre que Biden puisse réussir à récupérer leur confiance au final.
Oui, effectivement, réussite économique de Donald Trump. Je crois que c'était une étude de la Réserve fédérale d'Atlanta qui montrait que dans 29 villes ou États, ses bas salaires avaient augmenté effectivement récemment. Quel atout il aurait alors, Joe Biden, disons, c'est d'être une sorte de synthèse entre ses origines middle class véritable et puis le fait d'être une aile centriste, pas trop inquiétante pour certains démocrates aussi?
Oui, et là, il incarne une combinaison plutôt positive de ce millefeuille idéologique qu'est aujourd'hui le Parti démocrate. Si vous voulez, dans le Parti démocrate, comme il n'y a pas de candidat naturel, il y a beaucoup de lignes idéologiques qui s'affrontent, et notamment, il y a trois lignes de fracture importantes. La première, c'est sur l'économie, entre ceux qui défendent une ligne plutôt centriste et libérale, donc ça, c'est Joe Biden, versus ceux qui se disent plus socialiste, entre guillemets, c'est-à-dire bon, une gauche plus radicale, notamment sur les questions d'éducation, de santé ou de défense ou non du libre-échange. Et ça, c'est plutôt quelqu'un comme le sénateur Sanders ou Elizabeth Warren, par exemple. La seconde ligne, c'est sur les questions de société. Est-ce qu'on va être plutôt pour la défense des minorités ou plutôt pour la défense des classes moyennes, bon, sous-entendu blanches, donc ça, c'est là aussi plutôt Joe Biden. Et puis, une troisième ligne, c'est entre ceux qui vont choisir d'être extrêmement agressifs contre Trump ou ceux qui vont choisir une ligne plus apaisante pour chercher à réunifier le pays, qui est quand même extrêmement déchiré. Et là aussi, c'est Biden. Il va certainement jouer cette carte de la sympathie et de la réunification du pays.
Oui, c'est ce qu'il a dit plusieurs fois. Et d'ailleurs, c'est aussi peut-être pour éviter le reproche que fait déjà à l'avance Donald Trump aux démocrates d'être, disons, surtout des candidats en colère contre lui. Plusieurs lignes, vous avez dit, plusieurs tendances au sein du Parti démocrate, des centristes, une aile gauche, vous l'avez évoqué, certains indépendants, on pourrait dire, comme Pete Buttigieg, le maire de South Bend, une gauche qu'on dit religieuse aussi. Est-ce que ce foisonnement, il est bon pour les démocrates ou alors est-ce qu'il va pas saturer les électeurs, comme le disent certains, l'effet, disons, rayon de céréales au supermarché?
Oui, il faut aussi ajouter dans toutes ces lignes idéologiques que ce qui décidera le candidat, enfin, ce qui désignera le candidat, ce sera aussi son charisme. Et bon, Joe Biden, pour reparler encore de lui, a pas mal de charisme, mais en même temps, il est connu pour ses gaffes, comme je le disais tout à l'heure, donc c'est pas un charisme forcément très efficace. Un dernier aspect dans tout ce foisonnement idéologique, c'est qu'il faut bien noter que on l'a vu dans les midterms de novembre dernier, les élections de mi-mandat de novembre dernier, les démocrates sont extrêmement mobilisés pour en finir avec Trump. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils soient très radicaux, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'ils sont très mobilisés qu'ils vont nécessairement vouloir un candidat très très à gauche. Donc ça joue pour Biden. Mais enfin, il est certain que c'est peut-être le candidat et son charisme qui émergeront, qui décideront de la ligne idéologique du parti en définitive.
Oui, ce qui veut dire que finalement Joe Biden a quand même quelques chances. Juste un mot des autres candidats, Kamala Harris ou Pete Buttigieg, ils sont assez loin derrière, même Bernie Sanders qui est à 16% d'opinion favorable derrière derrière Joe Biden. Ça veut dire qu'ils ont aucune chance pour le moment?
Oui, mais enfin vraiment, le champ est extrêmement ouvert. Je pense qu'il va y avoir une cristallisation sur un autre candidat, sans doute. Kamala Harris est assez sérieuse, elle a une image de femme très sérieuse de Californie. Elle s'est gauchisée ces derniers mois pour essayer de ratisser plus de candidats, mais elle a une image. Elle a commencé par être attorney general, ministre de la justice de Californie, où elle a été assez ferme. Donc elle aura une image assez, un rayon d'action assez large, je pense.
Bon, et face à cela, alors, si on liste les atouts de Donald Trump, mais il y aura l'occasion d'en reparler, il y a toujours cette base donc d'approbation de 43%. Certains le voient comme le verre à moitié vide, puisqu'il a jamais dépassé les 50%. Comment est-ce que vous estimez sa popularité et ses chances d'être réélu?
Oui, en deux mots, lui, il a absolument appliqué son programme. C'est-à-dire que son programme conservateur et son programme populiste, il a vraiment coché toutes les cases, le libre-échange, l'immigration, son attitude anti-système, le succès de l'économie, enfin vraiment, tout est là pour que ces 43% revotent pour lui. Il n'y a vraiment aucune raison qu'il se détourne de ce candidat. En même temps, sa fragilité à lui, c'est qu'il ne cherche pas à élargir cette base. C'est-à-dire qu'il ne va pas essayer d'apaiser son discours pour reprendre quelques centristes ou quelques indépendants. Et du coup, on se demande si cette base vraiment qui va revoter pour lui suffira à l'élire. Ça, c'est l'équation de Trump.
Ce qui veut dire qu'un surcroît de mobilisation démocrate pourrait suffire finalement à le dépasser en 2020.
Oui, s'ils réussissent à faire émerger un candidat qui n'a pas de failles terribles et qui est assez raisonnable et sérieux. les chances de succès de Trump ne sont pas totales. Elles sont très bonnes, mais elles ne sont pas totales.
Bon, et s'il réussit à survivre à la sorte de guérilla juridique qui est menée au Congrès aussi, on aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup pour toutes vos explications ce matin, Laurence Nardon, responsable du programme États-Unis de l'IFRI. Puis on renverra à votre livre sur le site des enjeux internationaux de France Culture, Les États-Unis de Trump en 100 questions chez Talendier. Merci.